Moi aussi, je voudrais vous saluer tous, fraternellement, cordialement, dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, particulièrement tous ceux qui viennent des pays voisins et qui ont entrepris de longs trajets pour être ici. Aujourd'hui, nous avons de la visite de la Pologne, de la Tchèque et de la Slovaquie, oui, de l'Italie, de la Suisse, de l'Autriche, de la Belgique, de l'Hollande, de la France, des pays de l'Afrique. Et qui est-ce que nous avons oublié? Nos frères de l'Ukraine viennent d'être mentionnés et présentés. Nous sommes très, très reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons encore nous rassembler pour écouter dans le repos et la paix la parole de Dieu. Ensuite, nous avons des salutations du frère Wallström du Danemark, du frère Ellis de Edmonton, du frère Graf de la Suisse, du frère Nyagi de Nairobi, du frère Lotika de Johannesburg et encore différents frères qui ont appelé et qui nous saluent tous et aussi très particulièrement des salutations du frère Rousse, très particulièrement des salutations particulières du frère Rousse. Oui, les deux, le frère Rousse et la sœur Rousse, auraient bien voulu être ici ce soir, mais ce n'est pas encore possible corporellement, de manière qu'ils ne peuvent pas être ici, mais ils sont liés avec nous. J'ai apporté avec esprit des mails de la Nouvelle-Zélande qui écoutent en direct, de l'Australie qui écoutent en direct, du Canada qui écoute en direct, des États-Unis qui écoutent en direct, du Congo qui écoute en direct. Oui, en fait, beaucoup aujourd'hui écoutent en direct, sûrement aussi en Roumanie, et aussi le frère John de Bucarest remet des salutations. Nous sommes simplement reconnaissants pour cette occasion que nous avons ainsi dans le monde entier de propager la parole de Dieu. Seulement très rapidement, encore quelques dates qui considèrent les événements actuels en général. Nous avons constaté que les choses ne sont pas telles qu'elles étaient et qu'elles ne seront plus telles qu'elles étaient, mais que réellement, tout va vers la fin. Et nous avons ici l'annonce du Vatican. Les catholiques sont la seule véritable Église du Christ. Aussi, ça c'est une déclaration de Rome, hein, c'est pas mal. La deuxième déclaration, venant aussi du Vatican, ils disent, citation, « Nous sommes le temple de Dieu ». Ensuite, il y a un vocabulaire qui est utilisé, il mentionne le mot « l'Ecclésia ». Ils sont l'Église qui est sortie, ils sont l'Ecclésia. Et cela vient de nouveau encore de Rome, encore la citation la plus intéressante, la nouvelle la plus intéressante, très particulièrement écrite en grand. Viens, Seigneur Jésus. Les chrétiens ne s'attendent pas à la fin du monde, ne désirent pas voir la fin du monde, mais désirent voir la fin de toute injustice. Et ensuite, ils commencent en disant, que Rome, le 12 novembre, quand le Christ prie et dit « Viens, Seigneur Jésus », alors l'exposé suit ce sujet suit, qui concerne toujours de nouveau le retour du Christ, le retour de Jésus-Christ. Et quand on entend exactement, on écoute exactement ce qu'ils disent, c'est devenu le sujet. C'est devenu le sujet dans toutes les églises et les églises libres, dans tous les églises évangélistes. Tous remarquent que la fin des temps est là et va à sa fin. Et bien sûr, il y a quelque chose qui suit. Je vais le lire. Car avant le retour de Jésus-Christ, l'apostasie, c'est une parole que nous n'utilisons pas souvent. Ça veut dire chute, chute de la foi, comme c'est écrit dans 1 Timothée 4. Et la personne que la tradition chrétienne, plus tard, appellerait l'Antichrist, Paul, ne l'a pas expliqué dans le détail. Oui. Nous n'allons pas non plus l'expliquer dans le détail. Depuis que nous avons reçu par la grâce de Dieu la révélation de la parole, il n'y a plus rien à expliquer. Nous savons qui est l'Antichrist. Cela doit être révélé et est révélé. Ce qui est encore plus nécessaire, c'est la chose suivante, citation. Les sectes sont un risque pour tous, car ils interprètent la Bible de manière fondamentale. Ensuite, ils disent, citation, le danger qui vient des sectes est qu'ils interprètent la Bible de manière fondamentale. Citation, les Mennonites écoutent Benoît le 16, Benoît 16, appelant à l'union. C'est réellement ainsi, comme dans Apocalypse 17, il est écrit que toutes les églises filles reviennent dans le sein de la mère église. Mais l'église de Jésus-Christ, avant cela, elle est appelée entièrement à sortir et elle prête l'oreille au dernier appel. Encore en ce qui concerne Jérusalem, citation, les représentants du judaïsme veulent un dialogue avec, veulent accélérer le dialogue avec les églises. Il y a quelque chose de très grave qui est arrivé, mais là, je dois ici écrire là-dessus. Le plus grand rabbin à Rome a rendu visite au pape pour que le nom de Yahvé ne soit plus utilisé dans la liturgie, dans la célébration de la liturgie. Et tous ont à se soumettre à ce que ce rabbin déclare, ce qui est écrit dans Amos, où il est dit que le nom du Seigneur Yahvé n'a pas le droit d'être nommé. C'était quand un mort de la maison devait être sorti. C'est là que le nom de Yahvé n'avait pas le droit d'être nommé. Et les docteurs dans le judaïsme ont pris ce verset-là, l'ont mal compris, et on en fait une doctrine disant qu'on n'a pas, on n'a plus même le droit de prononcer le nom du Seigneur. Et ils ont, depuis l'année 270 avant Christ, ils ont remplacé le nom de Yahvé par Adonai, et c'est ainsi que cela existe encore jusqu'à aujourd'hui parmi les Juifs. Mais c'est triste, que ce soit juif ou orthodoxe, que ce soit de peau sombre ou de peau claire, ça n'a pas d'importance. Qui, si nous n'avons pas la révélation, alors nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Il y a maintenant encore quelque chose qui arrive, je veux presque terminer avec cela. À Rome, il y a un temple pour les mormones qui doivent être construit, qui est en train d'être construit à Rome, un grand temple pour les mormones. Et toutes les religions sont représentées à Rome. Et c'est ainsi que il est émis influence sur tous. Et à la fin, tous seront sous un seul toit. Cela est écrit ici, c'est un article de journal. Citation. La naissance d'un nouvel ordre, d'un nouveau ordre mondial. La naissance d'un nouveau ordre mondial. Heinrich Himmler aurait pu aussi le formuler ainsi en 1933 dans la lettre de Juri Streiter. Mais revenons à ce qui est important pour nous. Nous n'allons pas pouvoir retenir le déroulement de ces événements. Tout prend son cours comme cela est prédit et nous reconnaissons par cela que le retour de Jésus-Christ est vraiment très proche devant la porte. Et je regarde, n'est-ce pas, dans cette année, à ces 50 ans passés en arrière et vous l'avez sûrement lu dans la lettre circulaire, la lettre en français. On peut aussi aller la prendre à l'imprimerie. La lettre en français est prête aussi à l'imprimerie. Et j'ai inscrit donc tout le déroulement de ces 50 années depuis le ministère de Frère Branham, depuis la connaissance du ministère de Frère Branham et le déroulement dans le royaume de Dieu, dans le message et durant toutes ces années dans lesquelles j'ai eu le privilège de porter le message dans le monde entier, et même lors du dernier voyage maintenant par l'Afrique du Sud et par Namibia et par Swaziland, 13 fois j'ai décollé et 13 fois j'ai atterri. J'ai décollé et j'ai atterri. Et la parole du Seigneur, pour apporter la parole du Seigneur, et si même corporellement, je ne me sens pas comme ça en forme, mais je me sens en forme, plus en forme dans l'esprit, car je sais que le dernier message doit atteindre le dernier élu et atteindra le dernier élu. Les extrémités de la terre. C'est quand le dernier, ça n'a pas d'importance où est-ce qu'il sera sur terre. Quand le dernier sera appelé, c'est à ce moment-là que la totalité des nations est pleine et que la porte se fermera et que les trompettes retentiront. Que Dieu, aujourd'hui, puisse bénir tous ceux qui écoutent aussi dans toute l'Amérique du Sud, en Amérique du Nord, réellement en Europe et dans le monde entier. Le message divin est toujours adressé à au peuple de Dieu dans le monde entier. Dans ces dernières 50 années, ça va faire 34 ans ici depuis que nous nous tenons à cette chaire, ça va faire 34 ans et que nous prêchons la parole de Dieu et Dieu a réellement accordé beaucoup de grâce et nous sommes passés par beaucoup d'épreuves et Dieu a toujours d'une manière nouvelle secouru et il n'y a rien qui est resté comme séquelle de tous ces dégâts. Au contraire, tout ce que nous avons expérimenté comme épreuves nous ont rapprochés du Seigneur. Tout ce que l'adversaire a essayé de faire pour détruire, cela ne lui a pas réussi. Et tout a servi à notre bien. Et cette remarque, je voudrais maintenant encore la faire. C'est par cela, puisque à Frère Branham, il avait été confié, donné ce ministère infaillible, prophétique, et tel que nous l'avons lu aussi dans la dernière lettre circulaire, 1600 fois, il pouvait dire, ainsi dit le Seigneur. Et à chaque fois, il voyait une vision. Et à cela, Dieu lui a donc montré et lui a révélé ce qu'il devait dire à la personne concernée. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que quand il prononçait même le nom des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant, jamais vues, jamais connues auparavant, subitement, il pouvait dire leur nom. Et les personnes concernées étaient bien sûr tous surpris, oui, touchés et étonnés. Et je m'excuse de cette remarque, mais dans la dernière partie des 70, des années 70, cela est toujours de nouveau arrivé que ce n'était pas seulement le « ainsi dit le Seigneur » qui avait été dit à haute voix, mais tous ont été appelés avec des noms. Frère tel et tel, sœur tel et tel, frère tel et tel, sœur tel et tel. Mais pour le dire sincèrement, nous étions, n'est-ce pas, sous l'impression que ici, la même chose se répète comme dans le ministère de Frère Branham. Nous avions ici l'impression que c'était le même don qui se répétait, sans discerner que derrière cette imitation, il y avait le malin qui avait son jeu, sans savoir que c'était l'adversaire qui était en train d'imiter et qui avait sa main dans le jeu. Jusqu'à que cela a été révélé. Et ça, c'est la grande leçon que nous avons dû apprendre. Après cela, bien sûr, c'est seulement après que j'ai dû lire ce que Frère Branham, n'est-ce pas, a enseigné sur le don de la prophétie. D'abord, que aucune prophétie dans l'Église a le droit d'être acceptée, si ce n'est que d'abord elle a été examinée par trois frères, et que au moins par elle est confirmée par deux frères, par deux de ces trois frères. Et ensuite, Frère Branham, dans son enseignement, dit la chose suivante. Il dit que si, par exemple, je vous disais, Frère On My Navel m'a dit ceci et m'a dit cela, alors il faut que Nevel m'ait dit ça avant que je le dise. Il faut que je l'aie d'abord entendu avant que je le dise. Sinon, je pourrais jamais dire « ainsi dit le frère Nevel ». Il faut qu'il m'ait d'abord dit cela à l'avance. Bien sûr que c'est ainsi que nos yeux se sont ouverts, que ici, il n'y avait rien qui avait été examiné, mais ce sont seulement des choses qui ont été acceptées comme ça, comme venant de Dieu. Avec quelle raison? Mais il y a un frère qui me disait, Frère Franck, j'ai l'impression que ça pourrait être la dernière lettre circulaire que tu aies écrite. Et alors je lui ai dit, la dernière lettre circulaire, en ce qui concerne le passage du passé, laps de temps du passé, seulement en ce qui concerne laps de temps du passé. Et nous regardons à ce que Dieu fera de grandes choses. Je voudrais aujourd'hui avec vous considérer en continuant avec ce que nous avons déjà eu comme sujet dans la réunion à Salzbourg, en Autriche, et à Zurich. Je voudrais encore aller plus profondément dans ces choses pour en fait comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Et je voudrais ici aller dans le psaume 149. Dans le psaume 149, lire les versets 4, 5 et 6. Le psaume 149, psaume 149, verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Aujourd'hui, nous voulons nous attendre à cela. Le verset 5, le psaume 149, verset 5 maintenant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Une épée à deux tranchants, glaive à deux tranchants dans leurs mains. Louange de Dieu dans leur bouche. Selon que le cœur est plein, c'est ainsi que la bouche s'ouvre et parle. Encore, dans le psaume 33, psaume 33, versets 11 et 12. Psaume 33, versets 11 et 12. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le peuple qu'il choisit pour son héritage. Dans 1 Pierre, le premier chapitre, nous lisons quelques versets dans 1 Pierre, le premier chapitre, verset 13. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas attristés et affligés, car Dieu nous a accordé la grâce maintenant de croire comme vraiment l'a dit les Écritures. Et nous avons reçu les promesses en nous et nous savons que Dieu les accomplira. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quelle parole importante. Et ensuite, le verset 14, comme des enfants obéissants, comme des enfants de Dieu obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ensuite, l'obéissance suit. Au verset 22, nous continuons à lire. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça, cela doit aussi être une réalité en nous tous. L'obéissance est importante, de la même manière importante est aussi l'amour fraternel et l'amour pour tous les hommes, pour tous les hommes. Ensuite, nous venons au verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ouvrons directement Luc, le premier chapitre, encore une fois. Et regardons ce qui s'est passé autrefois. Et représentons-nous cela au commencement, donc aujourd'hui. Ce qui s'est passé au commencement de la nouvelle alliance avec le Rédempteur, avec le Sauveur, et ce qui s'est accompli par lui, c'est-à-dire tout ce qui avait été annoncé à l'avance, c'est ainsi que nous devons nous représenter cela aujourd'hui et comprendre que la même chose se répète avec les rachetés, tels qu'avec le Sauveur. La parole prophétique a trouvé en lui son accomplissement. C'est ainsi que dans les rachetés, maintenant la parole prophétique trouve son accomplissement. Et je voudrais lire cela dans la prédication de Frère Branham, numéro 1 et numéro 2, deux passages.
Wenn Gott sein Wort, wenn Gott und sein Wort eins werden,
quand Dieu et sa parole sont un, deviennent un, c'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu, la semence de Dieu, la parole de Dieu est abreuvée, c'est ainsi que Dieu lui-même est manifesté. Il est celui-là qui le produit dans chacun individuellement. C'est Dieu qui le fait à nous. Nous sommes morts. Et vous êtes morts. Et vous n'existez plus. Vous vous considérez comme morts, comme vide. Et vous attendez le germe de la semence. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas vous-même qui fassiez quelque chose. Ce n'est plus l'homme. C'est Dieu dans l'homme qui agit. C'est la semence, c'est le germe de vie dans la semence, telle que la parole parlait, comme était la parole parlée au commencement. Si la parole de Dieu a été manifesté dans un homme, alors ce n'est pas l'homme, car l'homme est mort. Il ne peut pas en même temps vivre et être mort. Ça ne peut pas être un mélange et un croisement. Ou alors, vous êtes mort, ou bien alors, vous êtes dans la vie. Si vous êtes un fils de la mort, alors vous êtes à la merci de l'adversaire. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, alors vous êtes consacré à Dieu. Et alors vous vous donnez entièrement à Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'adversaire, le diable, s'enfuit de vous et que le Seigneur vous console et vous conduit et vous donne d'aller de l'avant. Ensuite, de la prochaine prédication, de l'autre prédication qui nous est connue aussi de tous, je le lis pourquoi? Parce que ici, il est fait mention de Luc chapitre 1. Dieu, citation, Dieu de ce petit groupe, de la véritable semence parole, va susciter une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Donc c'est ainsi que par elle et en elle, tout ce qui a été promis dans sa parole pour la Vierge s'accomplira. Aucune interprétation humaine ou bien enseignement humain n'est connu d'elle. Elle n'a que la parole de la promesse. Lui-même va être en elle tel qu'il était en Marie. Dieu lui-même se manifeste dans une chair. Lui-même, selon sa propre parole de la promesse, agira pour accomplir tout ce qui est écrit de lui tel qu'il a fait, alors que par le sein d'une vierge, il vint. Tout a été accompli. Comme autrefois, alors qu'il vint par le sein d'une vierge. Ça, c'était un symbole, une image du sein spirituel de l'Église. De la même manière, aujourd'hui, la Vierge, maintenant, acceptera sa parole et dira qu'il me soit fait tel que tu l'as dit. Voyez-vous, quelle harmonie existe. Jésus-Christ n'a rien fait en dehors de ce qu'il voyait faire le Père. Il faisait rien en dehors de ce que le Père lui montrait. C'était une harmonie entre Dieu et Christ. C'est ainsi que ce sera aussi avec l'épouse. Il lui montre sa parole de vie. Il lui montre à l'épouse, il lui montre sa parole et elle l'accepte. Elle ne doute pas. Encore les deux phrases. La parole et les sentiments du Christ sont dans l'épouse. C'est ainsi qu'elle sait ce qu'il veut faire par sa parole. Et elle le fait en son nom. Car elle a le ainsi dit le Seigneur. Lisons cette parole merveilleuse et importante. D'abord, avant que nous revenions à parler de Luc chapitre 1, je voulais aller dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, aussi très connu de nous tous, mais avec tout le sérieux, autrefois, cela avait été écrit, et je pense que cela aussi est à prendre au sérieux, et car nous comprenons que cela est écrit pour nous dans ce temps aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, nous avons le but, l'objectif de la prédication, l'objectif de la véritable épouse qui doit être présentée à Christ comme une vierge pure. Ensuite, nous connaissons, n'est-ce pas, tous ce qui suit au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ensuite, bien sûr, suit ce qui se passe quand l'adversaire trompe et corrompt les pensées. Au verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, nous avons ici le contraire. D'abord, c'est un envoi. Un envoi lié dans le verset 1 et 2, l'envoi de Paul lié à l'objectif divin du message de salut. Et donc, il y en a des autres qui simplement comme ça viennent sans avoir été envoyés. Et bien aimés frères et sœurs, ça, je ne le dis pas pour critiquer. Ça, je le dis avec une grande douleur. Il y a beaucoup d'années qui sont passées, de 66 jusqu'à 79, où personne ne venait comme ça pour prêcher, où il n'y avait personne quand on prenait comme ça des voyages internationaux qui allaient d'un continent à un autre, où tous sont restés là où ils étaient dans le pays, dans la ville, dans l'église locale. Jusqu'à Tant que les choses étaient comme ça, il y avait l'union dans le monde entier, dans toute l'église. Dans le monde entier, il y avait une harmonie divine. Il n'y avait aucun enseignement étranger. Il n'y avait personne qui venait comme ça pour infiltrer aux autres ses propres pensées et présenter son enseignement. Mais il s'agissait d'aller de pays en pays, de ville en ville. Mais j'allais de ville en ville et je portais la parole du Seigneur. J'ai jamais apporté ne serait-ce qu'une seule interprétation, mais seulement la véritable parole de Dieu. Mais ensuite, réellement, il y a eu un laps de temps qui vint où des frères ont apparu et qui, comme ça, osaient voyager et venir prêcher. Et si on leur demandait quel appel ils ont reçu, ils resteraient muets. Mais l'autre comparaison est attirée aussi dans Philippiens, où Paul, encore une fois, fait mention de cela. Et s'il vous plaît, bien aimés frères et sœurs, je ne le dis pas pour critiquer, mais avec une douleur intérieure. C'est un état catastrophique qui existe à l'intérieur des groupes de ceux qui disent croire au message de la fin des temps. C'est un état catastrophique. Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1, au verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc, s'il vous plaît, dites-moi, quelle est la raison qu'on pourrait avoir de prêcher Christ à l'extérieur par envie, seulement par envie et par esprit de dispute pour vouloir savoir mieux les choses? Quel sens cela devrait avoir d'avoir envie de le faire? Ensuite ici, mais d'autres le prêchent avec des esprits de dispute. Mais d'autres le prêchent, donc il relie la deuxième partie, par esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Maintenant, il lit le verset 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là animés d'un esprit de dispute annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Si par exemple des frères comme ça arrivent et viennent avec des enseignements particuliers ou bien sur les sept tonnerres ou quoi que ce soit, si vous leur demandez, bien aimé frère, mets ta main maintenant sur ton cœur et dis seulement ce que tu pourras dire devant le jugement de Dieu. S'il te plaît, dis-nous la vérité. Avec quel motif tu prêches ceci et cela? Et si ensuite les frères sont sincères, sûrement qu'ils nommeront un nom. Ils vont nommer un nom en répondant. N'est-ce pas? Revenons à Luc, le premier chapitre. Ici, nous avons Marie, et je compare ici maintenant Marie en tant que la Vierge sage, et parmi les Vierges sages de Matthieu 25. Et j'ose dire que les vierges sages sont comparables à Marie. Elles acceptent aucune interprétation et semence étrangère. C'est absolument pas possible. Elles acceptent rien qui vient d'un homme, si ce n'est que c'est la sainte et précieuse parole de Dieu, telle qu'elle nous a été transmise dans la Bible, les Saintes Écritures. Ici, nous avons quelques versets importants et pensées importantes. Le verset 26 et 27, Luc chapitre 1, verset 26 et 27, nous parle de ce que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée et a apporté le message contenant ce qui devait se passer maintenant. Et bien, mes frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez pour un moment, vraiment pour un moment, comprendre ce qui est écrit, ce qui s'est passé là. Tout ce qui était écrit faisant mention de notre Sauveur et Rédempteur s'accomplissait en un seul moment, en un seul jour. Genèse chapitre 3, verset 15, s'accomplissait en un seul jour, un seul moment, que la semence de Dieu viendrait par la femme et écraserait la tête du diable, de l'adversaire. Le psaume 2, le verset 7, s'accomplissait en ce jour, en cette heure. Ceci est, n'est-ce pas? Psaume 2, on peut le lire, verset 7. Tu es mon fils. Je t'ai aujourd'hui engendré. Disons cela pour que nous puissions l'avoir exactement. De quoi il s'agit pour moi aujourd'hui, c'est la chose suivante. C'est que nous puissions comprendre au moment où Dieu fait l'histoire du salut. Alors, tout ce qu'il a promis s'accomplit dans l'église épouse, dans notre temps. Psaume, chapitre 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai moi-même aujourd'hui engendré. Ici, nous avons le jour. Ici, nous avons la description exacte dans Luc 1, verset 27. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et ce qui naîtra de toi sera appelé Saint, Fils de Dieu. Donc, ce qui est écrit dans le psaume 2, au verset 7, et lisez aussi le verset 8 du psaume 2. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2, verset 8. Tu es mon fils. Il relit le verset 7. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ici, dans Luc 1, nous avons l'accomplissement de toutes ces promesses de l'Ancien Testament. Le psaume 22, verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Psaume 22, verset 10. Et cela s'est accompli dans Luc 1. Ici, cela s'est accompli. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Ici, nous avons le rapport, le passage entre la prophétie et son accomplissement. Et nous devons maintenant prendre cela pour notre temps et comprendre que c'est maintenant nous vivons dans le passage entre la prophétie et son accomplissement dans l'église épouse. En un seul jour, en une seule heure. Et ce qui est écrit s'accomplit dans les rachetés. C'est ainsi aussi que, par exemple, Ésaïe 7, verset 18. Une vierge enfantera. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi une vierge deviendra enceinte et enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien, frères et sœurs, Ésaïe 7, verset 14, cette parole s'est accomplie à la lettre dans le Nouveau Testament, dans Luc. C'est ainsi, bien mes frères et sœurs, que cela a eu lieu avec le Rédempteur, le Sauveur. Et c'est ainsi que cela se termine à la fin du temps de la grâce avec les rachetés. Chaque promesse est devenue une réalité. Il était la semence de Dieu qui vint pour briser la tête du diable. Il était l'accomplissement du psaume 22 au verset 10, 2 verset 7, psaume 2 verset 7. Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Il était l'accomplissement du psaume 22 verset 10. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Là, la promesse, la prophétie, et ensuite, dans le résumé, tout accompli, devenu une réalité divine. Et si nous continuons à lire dans le Nouveau Testament, alors tout s'est accompli. Fondamentalement, tout s'est accompli, tel que Dieu l'avait prédit. Prenons, considérons le ministère de notre Seigneur. Ésaïe 35, versets 6 et 7. Les aveugles retrouveront la vue, les paralytiques marcheront. Ésaïe 35, versets 6 et 7. Toutes les autres promesses ont trouvé, se sont joints à ces promesses-là et se sont accomplies jusqu'à sa montée au ciel, la montée au ciel de notre Seigneur qui est décrit dans le psaume, dans les psaumes déjà, et jusqu'au commencement de l'Église du Nouveau Testament, et jusqu'au déversement du Saint-Esprit, tout était annoncé à l'avance, où Pierre pouvait dire, ici s'accomplit ce qui est écrit, ce que Dieu a annoncé par la bouche du prophète Joël. Lisons rapidement, avant de venir à parler de notre temps, de parler de nous en tant qu'Église, qui maintenant est appelée à sortir. Lisons ici dans Luc chapitre 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que nous avons ici? L'action surnaturelle de Dieu. L'ange Gabriel descendit, envoyé par Dieu et donna l'annonce de ce qui va arriver. Et tout ce qui était promis s'est accompli. Si frère Branham parle de cela, que l'ange de l'Éternel lui est apparu et que il a pu même décrire sa taille, son poids. Il a décrit même de la tête aux pieds. Alors nous devons savoir que ici, c'était Dieu qui agissait, que ce n'était pas un homme qui était en train de parler d'ange ou bien qui était en train d'essayer d'imaginer de faire ceci ou bien cela. Mais c'était Dieu qui était en train de faire, qui était en train d'accomplir la parole prophétique. C'était Dieu qui était en train d'accomplir ce qui était promis dans la Bible. Ensuite, il est dit, comme il est dit ici, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien, mes frères et sœurs, le verset 30 de 1 Luc, de Luc 1, verset 30. Si nous avons trouvé grâce devant Dieu, nous allons prêter l'oreille à ce qu'il a promis pour ce temps présent. Luc 1, verset 30. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ensuite, la description dans le détail est donnée. Ensuite, suit le verset 34. Marie dit à l'ange, verset 34, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Ça aussi, c'est très important dans ce contexte. Aucun scribe pharisien, aucun pharisien, aucun scribe, aucun pharisien, personne Marie n'a rien reçu de semences étrangères, d'enseignements étrangers ou bien d'interprétations. Elle a seulement reçu la parole reçue, envoyée par l'ange. Et elle pouvait dire, je ne connais point d'homme, je ne connais point d'homme. Verset 34. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 34. Le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Est-ce que je devrais vous lire les versets bibliques qui nous désignent comme semences? Lisons dans les psaumes. Lisons dans les psaumes. Psaume 22, versets 31 et 32. Psaume 22, versets 31 et 32. Sa semence le servira. Lui, la semence au singulier. Maintenant, cela est rapporté à nous. Il a dit, sa semence le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Maintenant arrive le verset très important. Ils viendront. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Lui disant qu'il l'a accompli. En allemand, lui disant qu'il l'a accompli. Sa semence le servira. Et le peuple qui naîtra encore, Marie devait enfanter un fils, le fils de Dieu, le fils de Dieu. La parole, la semence de Dieu devint chair et habita parmi nous. Sa semence le servira. Le peuple qui naîtra encore. Le psaume 22, verset 31 et 32. Le psaume 89. Le psaume 89. Nous lisons encore à partir du verset 3. Le psaume 89. Verset 3. Denn du, Herr, psaume 89, verset 3.
Auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein.
Car je dis là, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta semence pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Bien-aimés frères et sœurs, comme déjà cela a été dit, autrefois il s'agissait de ce que toutes les prophéties qui faisaient mention au Sauveur qui devait venir trouvèrent leur accomplissement. Et cela a eu lieu parce qu'une vierge s'est mise à la disposition de Dieu. Elle avait été déterminée à cela et elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Maintenant Dieu cherche les vierges sages qui peuvent dire la même chose. Je ne connais point d'homme. Je ne connais aucun prédicateur. Je ne connais aucun homme. Et son enseignement, je ne connais personne. Je sais une seule chose, c'est que mon Rédempteur vit. Et disons les choses ouvertement et librement. Où est-ce que aujourd'hui la profondeur du message est placée sur le chandelier? La profondeur, le sens du message est placé sur le chandelier. Où? Tous ont un certain enseignement, interprètent certaines choses, tous se réfèrent aux prophètes et ne peuvent pas se référer à Dieu et à sa parole dans tout ce qu'ils disent. C'est pour cette raison qu'en cet endroit, toujours de nouveau, nous devons dire en insistant seulement pour ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est seulement pour ça que Dieu a pris toute responsabilité. Par exemple, j'ai lu 125 fois, frère Branham a fait mention de Zacharie, chapitre 14, verset 7, dans toutes ses prédications. Au temps du soir, la lumière paraît à toi. 125 fois, il fait mention de ce verset. Zacharie 14, verset 7. Et si nous comprenons comment est-ce que cette parole prophétique-là est justement importante, que réellement, au temps du soir, avant que l'heure de minuit frappe, et que le jour du salut aille à sa fin, Dieu, encore une fois, manifeste sa miséricorde. Mais ça n'a rien à voir à faire avec Zacharie 14, verset 7. Ce qui est écrit dans Zacharie 14, verset 7, va trouver son accomplissement seulement quand le Seigneur, selon Apocalypse chapitre 10, Zacharie 14, au commencement, mettra son pied sur la montagne des Oliviers et qu'elle se fendra. Mais dans les différentes prédications, c'est pour montrer que avant l'heure de minuit, Dieu a donné une promesse, une parole prophétique pour Jérusalem, pour Israël et aussi pour l'Église épouse. La lumière paraîtra au temps du soir. C'est vrai. Alors, frère Branham a sûrement pensé à 2 Pierre, au verset 1, au verset 19 et 20, où il est dit, au chapitre 1, au verset 20, 19 et 20, où il est dit que nous faisons bien d'être attentifs à la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur, comme une lumière dans un lieu obscur. Mais personne ne peut prétendre que Zacharie 14 est déjà accompli, que le Seigneur a déjà mis son pied sur la montagne des Oliviers et qu'elle s'est fendue. C'est la même chose aussi au verset 4 de Zacharie 14. Voilà le contexte de ce verset 7 de Zacharie 14. Et de la même manière, on peut prendre aussi beaucoup d'autres sujets. Il prêche des choses sans avoir vraiment la compréhension pour ce qui est écrit. Et le sens de la parole prophétique et sa place. C'est pour cette raison que nous voyons comment est-ce que c'est nécessaire que tout soit mis à sa place dans la Bible, ce qui concerne l'Église et est écrit pour l'Église. Cela est pour l'Église. Ce qui est écrit pour Israël est pour Israël. Il faut que tout soit placé là où cela a sa place. Encore cette pensée de Matthieu 25, tous nous savons ce qui est écrit dans Matthieu 25. Les vierges sages, en comparaison avec Marie, la vierge qui ne connaissait point d'homme et qui a attendu, ou bien alors qui avait été déterminée par Dieu pour qu'elle soit l'élue. qu'elle soit celle qui est choisie pour que la parole devienne chair et que pour que par elle la semence puisse venir pour accomplir la rédemption. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi encore aujourd'hui avec nous. Pas dans une fantaisie, de vivre dans une fantaisie et d'inventer certaines choses et de les infiltrer dans la prédication, mais de suivre les Écritures et de voir, je me répète encore ici, en ce jour, réellement, dans Luc chapitre 1, Genèse 3, verset 15, s'est accompli. Ce n'était pas seulement une prophétie disant que par la femme, la semence viendra. Psaume 2, verset 16, s'est accompli. Genèse 3, verset 15. Psaume 22, verset 10, s'est accompli. Ésaïe 7, verset 14, s'accomplit. Tout ce qui avait été écrit de lui dans le rouleau du livre, dans les Écritures, en faisant mention déjà de sa naissance, et tout s'est accompli. Dans tout son résumé, et là nous pourrons vraiment lire encore tout un nombre de versets bibliques concernant cela. Mais maintenant ma question, avant le retour de Jésus-Christ, le message a été apporté. Oui, mais pour quelle raison? Pour appeler à sortir? Et pour que tout soit corrigé. Et que tout soit ramené dans l'état primitif, tel que ça existait dans l'Église primitive. Et maintenant, nous arrivons à ce point important. Tous les autres vont l'écouter, mais ne vont pas l'expérimenter. Mais les vierges sages, elles vont pas seulement l'écouter, mais elles vont le croire et elles vont l'expérimenter. Et à la fin, cela sera manifesté. Qui est celui qui a vraiment trouvé grâce devant Dieu? C'est une chose de prétendre quelque chose, et c'est une autre chose que ce qu'on prétend soit comparé avec les Écritures et soit pareil. Nous devons nous retrouver dans les Écritures, dans l'accomplissement des prophéties bibliques par la grâce de Dieu. Ça, c'est seulement donné aux vierges sages. Et aucun homme a besoin d'interpréter Matthieu 25. Aucun homme. Aucune parole a besoin d'être interprétée. Personne n'a besoin de nous expliquer ce que signifie l'appel de minuit, le cri de minuit. Pensons à ce que les Écritures devant nos yeux ont trouvé leur accomplissement et comprenons que le dernier message a retenti, l'appel à sortir, la préparation, la correction, tout est en train de s'accomplir donc en ceux qui appartiennent à l'Église épouse, en ceux qui appartiennent à l'Église épouse. Et personne, j'ose même le prétendre, personne qui appartient aux vierges sages va quelque part se perdre et suivre un homme, suivre un frère qui propage des enseignements qui ne sont pas prouvé par la Bible. Je crois que les vraies vierges sages, tel que cela est écrit dans Matthieu chapitre 25, resteront pures devant Dieu. Aucune prostitution spirituelle aura lieu et souillure spirituelle. Nous savons tout ça, ce que représente cette prostituée d'Apocalypse qui commet prostitution avec tous les rois de la terre, etc. Ça, c'est une chose. Mais l'Église, l'épouse de l'agneau, elle est mise à part. Elle ne commet aucune prostitution avec une église, ou bien une église libre, ou bien un enseignement, ou bien une interprétation. Elle reste seulement ouverte pour la parole. Seulement pour la parole. Et cela nous diffère réellement de tous les autres. Dans Jean 14, nous avons la promesse disant, je vais vous préparer une place. Et de la même manière, nous avons dans Matthieu 25, au verset 10, celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces et la porte s'est fermée. Encore une pensée très importante. Dieu, dans aucune religion, a pu, comme ça, avoir le mot à dire. Tous peuvent faire ce qu'ils veulent. Dieu n'a jamais, comme ça, corrigé une dénomination. On n'a jamais entendu que Dieu serait allé à Rome, frapper à la porte et aurait dit, mais ce que vous faites là, ce n'est pas juste. Est-ce qu'il est allé quelque part dans toutes les différentes dénominations, églises anglicanes ou bien orthodoxes? Est-ce que Dieu est allé quelque part pour corriger quoi que ce soit là-bas? Non, mais il ne veut pas qu'on ose aussi venir le corriger dans sa Bible, dans sa parole. Il revendique avoir le seul droit de parler dans son église. Il revendique avoir le seul droit d'être le chef dans son église et de parler. Et il ne permet pas que l'église épouse accepte une semence étrangère, un enseignement que la Bible ne connaît pas. Et j'ai apporté avec moi une photo de ces deux différents sèmeurs. Ça, nous l'avons, n'est-ce pas, il n'y a pas longtemps, déjà considéré. Matthieu, chapitre 13. Le Fils de l'homme sème la bonne semence. Et la bonne semence, ce sont les enfants, les fils du royaume de Dieu. Et il y a quelqu'un qui arrive derrière lui et il sème la semence sur le même champ. Et ensuite, il part, et voilà, les deux portent de leur fruit. Les deux portent du fruit. C'est ainsi avec toute interprétation. Et ça, jusqu'à la fin, je vais devoir le dire. Chaque interprétation est l'œuvre du diable. Et si Paul ici a écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, qu'il avait peur, qu'il craignait que tel que le serpent a trompé et séduit Ève, comme cela a eu lieu avec Ève, que leurs pensées soient corrompues et détournées de la simplicité à l'égard de Christ. C'est ainsi qu'on doit le dire. Conservez vos cœurs purs, acceptez que la parole de Dieu et tout le reste, que cela passe sans être reçu de vous et que vous ne puissiez pas prêter l'oreille à ces choses et rien accepter en tant que rien accepter d'autre que la parole pure et la semence incorruptible de la parole de Dieu. Là-dessus, on pourrait lire beaucoup de versets bibliques, aussi déjà de l'Ancien Testament, pour montrer comment est-ce que Dieu lui-même a pris soin de ce que tout soit selon sa parole. Il a pris soin à ce que tout soit fait selon sa parole. Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu ont fait tout comme Dieu leur avait ordonné de le faire. Dans notre temps, dans nos jours, Dieu a ordonné frère Branham d'une manière particulière, l'a utilisé. Il a réellement, d'une manière nouvelle, placé sur le chandelier l'enseignement sur la divinité. Et il a pu dire que tel que Dieu dans l'Ancien Testament a dit, et cela est écrit, où c'est dans Deutéronome, le chapitre 6. Écoute Israël, le Seigneur, votre Dieu, est un seul Dieu. Cela est écrit, le mot hébreu, Echad. unique, seul, pas en deux ou trois personnes, mais en une seule. Votre Dieu est une seule personne. J'ai apporté avec moi la Missouza aujourd'hui, ici, la confession juive, comme chaque Israélite, comme chaque Juif, ici, il a sur le linteau de sa porte, à la droite du linteau de la porte, chaque Juif, chaque Israélite a inscrit sur le linteau de sa porte, Deutéronome, chapitre 6, ces versets, j'aimerais exactement les lire pour que vous puissiez aussi les avoir exactement comme c'est écrit. Et cette confession de foi, appelée Sma Israël, ils doivent la porter sur leur front, sur leurs mains. Laissez-moi vous lire cela ici. Dans Deutéronome, le chapitre 6, à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ces versets jusqu'au verset 9 que nous venons de lire sont écrits ici, dans ce petit objet, et pour chaque Israélite, dans chaque hôtel, dans chaque maison en Israël, à droite du linteau de la porte, quand on entre. Et nous avons compris que Dieu ne s'est pas multiplié, mais que Dieu s'est révélé en tant que notre Père au ciel. Et qu'il a fait un nouveau commencement et qu'il a établi dans l'adoption par sa grâce pour accorder d'être établi dans l'adoption, dans la position du Fils. Mais c'est le même, il est resté le même Dieu dans toute l'éternité. Celui qui veut le lire peut le faire dans l'histoire de l'Église. C'est seulement après Constantin, c'est seulement dans le temps de Constantin qu'on a inventé cette idée-là de trois personnes de la divinité, inventé trois, cette idée. Et depuis Théodosius, ils en ont fait, il a déclaré cela comme un dogme. Qu'est-ce que nous avons à avoir à faire avec un dogme? Nous qui sommes croyants bibliques, qu'est-ce que nous avons à voir à faire avec ce qui a été déclaré apostolique dans le 3e, 4e, 5e siècle? Mais bien aimés frères et sœurs, c'est absolument important de ne pas seulement sortir de Babylone, mais que l'esprit de Babylone puisse nous quitter aussi. Tout, que ça puisse nous quitter aussi. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne ramène pas non plus à Dieu. Et c'est pour cette raison que nous devons expérimenter une restitution, une restauration, un rétablissement de toutes choses. La même chose concerne aussi le baptême d'eau. Il n'y a réellement pas une seule pratique religieuse, pas une seule pratique dans la Bible qui aurait été faite dans des titres. Pas une seule pratique. Cherchez-moi ça dans la Bible. C'est aussi de nouveau une incompréhension. Et croyez-moi, dans toute la chrétienté, tout est reposé que sur des incompréhensions. Et tout est bâti que sur des incompréhensions. Et la même chose est retrouvée et a eu lieu dans le message de la fin des temps. Parce que ils ont besoin de la révélation par le Saint-Esprit. Et celui qui a la révélation, il fait caler d'écriture en écriture. Il n'explique rien, il n'explique rien. Il va de verset en verset. Il va de Marc 16 à Luc 24, de Matthieu 28 à Marc 16 à Luc 24. Et de Luc 24, il va à Jean, le chapitre 20. Et de Jean 20, il va à Actes, apôtres, chapitre 2. Et tous les autres versets. Pour suivre le mandat, l'ordre missionnaire, et pour montrer de quelle manière l'Esprit de Dieu les a conduits au commencement. Bien-aimés frères et sœurs, résumons l'importance des choses pour nous aujourd'hui pendant cette réunion. Il s'agit qu'à la fin du temps de la grâce, dans l'épouse de l'agneau, dans les vierges sages, chaque promesse deviendra une réalité. Ça, c'est toute la prophétie biblique. Tout ce que Dieu s'est proposé de faire trouvera son accomplissement dans les vierges sages. Et cela doit être notre disposition de cœur. Une question. Est-ce que Marie a dû s'efforcer alors que l'ange lui disait, « Toi, tu as reçu grâce, tout était bien. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait pour trouver grâce ? Bien-aimés frères et sœurs, celui qui maintenant a trouvé grâce devant Dieu, Dieu lui révélera sa parole, lui révélera les promesses fondamentalement. Tout cela appartient à trouver grâce. Il ne s'agit pas seulement comme ça de lire seulement dans Deutéronome, dans Exode 33, comme Moïse a dit, « Si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître ton chemin. » Non, trouver grâce devant Dieu signifie reconnaître l'accomplissement des prophéties bibliques, c'est réellement personnellement expérimenter l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Ça, c'est trouver grâce. Et c'est ce qui est accordé aux vierges sages qui formeront l'épouse Église qui maintenant est prévue par Dieu pour elle. Pas seulement ce qui se passe dans le monde, pas seulement ce qui se passe dans le domaine politique et religieux, mais ce qui est déterminé pour nous, c'est comme Marie. Elle a dit qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Elle avait reçu la promesse, les promesses, et il lui a été dit que cela s'accomplira parce qu'elle a cru. Et aussi certain que Dieu avait accompli la première promesse, « Voici, je vous envoie le prophète Élie. » Selon Malachie 4, verset 5. Et laissez-moi encore dire cela. Cela vient de m'arriver dans la pensée. Tous ceux qui, dans tout leur cœur, sans effort, peuvent croire que Dieu, dans notre temps, a accompli cette parole prophétique là de Malachie 4 au verset 5. Voici, je vous envoie le prophète Élie, que à la fin du temps de la grâce, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, Dieu avait promis envoyer un prophète et avec lui un message divin, un ministère prophétique. Je vous le dis, si de tout votre cœur vous pouvez croire cela de manière biblique, alors l'accès à toutes les autres promesses et leur accomplissement vous êtes donné par la grâce de Dieu. Car l'une lie à l'autre avec les autres, l'une appartient aux autres, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Dieu le Seigneur, qui puisse nous aider et qui nous bénisse. Je souhaiterais que je pourrais le dire comme je le ressens, comme je le vois, comme cela est dans mon cœur. Que Dieu bénisse aussi tous les traducteurs. Que Dieu bénisse dans toutes les langues. Que Dieu bénisse dans le monde entier. Avons-nous compris l'importance pour nous trouver grâce? Avons-nous compris ce que cela veut dire? Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et ensuite s'accomplit une écriture, l'une après l'autre, une prophétie, l'une après l'autre. Exactement, c'est encore aujourd'hui, maintenant. En un seul jour, en une seule heure, d'avoir trouvé grâce devant Dieu signifie de prendre part à tout l'accomplissement de chaque promesse que Dieu, dans cette époque, pour cette époque, a donnée et d'avoir part, par la grâce de Dieu, à cela. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas le programme d'un homme. Nous avons le programme de Dieu lui-même. Le programme du salut de Dieu, de la prédication qui doit être prêchée. Et à cela appartiennent toutes les promesses. Oui, jusqu'à la transformation de nos corps mortels, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à le festin des noces de l'agneau. Nous allons, par la grâce de Dieu, voir tout ça. Croyez-le de tout votre cœur et remerciez déjà Dieu pour cela.
Amen.
Nous voulons nous lever et remercier Dieu le Seigneur. Chantons ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Bien-aimés frères et sœurs, avant que nous chantons encore, nous voulons courber les têtes, ouvrir les cœurs, demeurer dans la prière devant Dieu. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne peuvent pas encore croire, comme le dit les Écritures. Peut-être qu'il y en a encore parmi nous, en commençant avec les jeunes, jusqu'à les plus âgés qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu. Peut-être qu'il y en a d'autres ici qui ont des difficultés à croire. Peut-être qu'il y en a qui ne reconnaissent pas encore la nécessité, l'importance de d'abord croire chaque promesse avant de pouvoir la voir s'accomplir dans notre vie. Abraham a dû d'abord croire Dieu. C'est ainsi qu'il a vu ce qu'il a cru s'accomplir. C'est la même chose encore avec nous. D'abord, la prédication est apportée. Et après, c'est ainsi que la foi vient de ce qu'on entend de la prédication, de la parole de Dieu. Et ensuite, nous sommes conduits à son accomplissement. Nous avons le meilleur exemple devant les yeux concernant Marie. Elle croyait. Et Dieu a ainsi fait le commencement de l'histoire du salut. Le Rédempteur vint à nous, est devenu homme, et sur la croix à Golgotha, il a versé son sang et sa vie pour accomplir la rédemption, le salut, et apporter devant Dieu l'expiation par le sang de l'agneau, pour nous accorder l'expiation de nos péchés par son sang. Tout a été annoncé à l'avance. Il est même dit dans Ésaïe 53, quand tu donneras sa vie en rançon, n'est-ce pas, il verra une semence et prolongera ses jours. Ésaïe 53, verset 10. Bien-aimés frères et sœurs, il a donné sa vie, il a versé son sang, la rédemption est accomplie. Nous avons la grâce d'expérimenter par la foi la justification le pardon et la réconciliation. Et c'est pour cette raison que nous adressons cette parole à tous ceux qui sont peut-être encore quelque part liés et qui sont empêchés de prendre entièrement leur décision pour le Seigneur et qui n'ont pas encore expérimenté une conversion authentique, encore, ils n'ont pas encore reçu la certitude de leur salut. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, il faut que cela ait lieu avec nous. Il faut que cela se passe avec chacun individuellement, car c'est ainsi que c'est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, c'est esprit. Tel que l'esprit descendit et que la parole en tant que semence a été placée dans le cœur, et que le Fils de Dieu naquit. C'est ainsi que la parole de Dieu en tant que semence est implantée dans notre cœur. Et le Saint-Esprit vient sur nous. Et c'est ainsi que nous naissons pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que personne regarde autour de soi, je voudrais demander, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent lever leurs mains pour consacrer leur vie à Dieu, ou bien alors quoi que ce soit comme requête que vous pourriez avoir? Merci, 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 merci. Dieu voit toutes les mains et Dieu voit tous les cœurs. Chantons encore « Tel que je suis » sans rien qui vient de moi. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, nous avons la promesse, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Tu lui accorderas la paix pour son âme. Bien-aimé Seigneur, nous venons aujourd'hui avec tous ceux qui ont une requête, que ce soit le salut de l'âme, la guérison du corps, la délivrance des puissances des ténèbres, de quoi que ce soit comme chose impie qui veut s'attacher à nous. Il est dit, celui que le Fils délivre, il est réellement libre, délivré. Et nous te demandons aujourd'hui que la victoire de Golgotha soit manifestée. Sauve, guéris, délivre et accorde la révélation, accorde l'accès dans le lieu très saint à chacun, pour que ta parole, par la révélation, par ta grâce, nous soit accordée. Bien-aimé Seigneur, bénis-nous en cet endroit, bénis dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations. Nous te remercions de ce que la parole pure, la semence précieuse pure a été semée et continue à être semée. Et nous te demandons, n'accorde pas seulement 30 ou bien 60, mais 100% de fruits. Accorde la foi, accorde la foi dans tous nos cœurs. Et nous te demandons maintenant, dans ton merveilleux nom de Jésus, que ton Église épouse soit conservée de toute influence du diable et que personne ne vienne comme ça pour prêcher quelque chose, mais que ce soit Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité et le Seigneur qui revient, que ce soit lui qui soit prêché. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec ton peuple, tel que tu l'avais avec Marie, tel que tu puisses aussi l'avoir avec nous, avec toutes les vierges sages dans ce temps. Que nous ne restions pas en arrière, mais que nous soyons prêts pour prendre part à l'enlèvement et participer ainsi au festin des noces de l'agneau. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses le produire en chacun par la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia.
Amen.
Chantons encore, tu es digne, tu es digne. Et que tout le peuple dise Amen.
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 Combien
croient comme le dit les Écritures?
Amen.
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 Amen. Et nous verrons l'accomplissement de l'Écriture. Et nous verrons l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis. Cela aura lieu comme il est écrit à la fin de Josué. Pas une seule promesse est restée sans s'accomplir de tout ce que le Seigneur a dit. Réjouissez-vous, enfants de la promesse, les enfants de la promesse croient la parole de la promesse. Et ils voient l'accomplissement de la promesse. Croyez. Ne déshonorez pas Dieu par l'incrédulité, mais honorez Dieu par la foi. Il fera en sorte que tout s'accomplisse, tout ce qu'il a prononcé de sa bouche. Qui propose un cœur? Je l'aime.
Noch einmal in Englisch. Halleluja.
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 Alléluia.
Amen.
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 Saluez-vous tous jusqu'à demain matin, Dieu voulant.